en dire et des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Cette émission est une rediffusion. Bonjour, bonsoir. C'est une femme d'aujourd'hui, parfois incertaine avec ses crises de l'âme, qui avec son désir d'insolence voulait s'envoler jusqu'au bout et vivre libre. Pour la toute première fois, et sans Mike, Lisa, Alexandre M et Lola, mis à part Johnny et Caroline, Jeanne Masse parle et ça passe aujourd'hui sur RFI. Avec un triple CD best-of chez Warner et un livre intitulé Réminiscence qui sort chez Flammarion, le bébé rock, l'enfant en rouge et noir et au cœur volcan, parfois seule mais plus forte que l'océan, raconte une autre histoire avec tous les cris, les SOS, avec du suspense mais sans mourir d'ennui. Bref, c'est comme dans les BD et Shakespeare, il y a des bons, l'amour du mal, des flashs, l'art des femmes, et vous m'en direz des nouvelles.
Bonjour, bonjour. Elle me dit bonjour, bonjour. La fille qui a pris mon amour peut toujours me dire bonjour. Elle a gardé mon ami. Elle s'est glissée dans son lit. C'est pour ça qu'il est parti.
Bonjour, bonjour Jeanne Masse.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Réminiscence, c'est donc le titre à la fois du triple CD et du livre. Alors Réminiscence, je suis allé voir dans le dictionnaire Larousse ce que ça voulait dire précisément. C'est un souvenir vague ou incomplet, difficile à localiser. Ça veut dire que vous avez eu du mal à vous souvenir, il fallait faire un effort.
Oui, il y a plein de choses où j'ai eu beaucoup de mal à me souvenir. Enfin, les souvenirs sont venus petit à petit assez naturellement, mais par exemple les dates, les années, tout ça, il a fallu que j'aille chercher sur des sites qui parlent de moi, parce que moi c'est vraiment très 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 confus.
Alors on sent souvent dans vos lignes et vraiment d'un bout à l'autre du livre une certaine pudeur et en même temps un besoin de parler, un besoin de dire, un besoin de vous raconter, de vous adresser à ceux qui vous ont suivi depuis le début de votre carrière. Pourquoi est-ce que vous teniez à regarder comme ça dans le rétroviseur? Et non seulement à regarder dans le rétroviseur, mais à partager le fruit de votre expérience avec le public.
Au début, j'ai longuement hésité avant d'écrire ce livre, et c'est vrai qu'à un moment un petit peu poussé, et puis soutenu aussi par ma maison d'édition, je me suis dit qu'il était peut-être nécessaire que j'explique certaines choses, certains choix musicaux, certaines attitudes, et donc je suis rentrée dans ce monde qui était le mien et que j'avais totalement mis de côté, et j'ai vécu des choses formidables. C'était comme un film que je revivais en moi et devant mes yeux, et je me suis beaucoup amusée au début, j'ai parfois souvent pleuré, et le résultat est là, c'est-à-dire qu'en fait je pars d'une période en revenant un peu sur mon adolescence, surtout sur mes premières armes comme ça dans le milieu, et cette envie folle toujours de chanter, d'être une artiste, d'avoir la reconnaissance du public, et puis je m'arrête à ce départ aux États-Unis.
Alors justement, c'est une passion effectivement, et c'est vrai que c'est un livre de passion, un livre en rouge et noir, hein, forcément on va
exact.
Y revenir dans un instant, mais dès la couverture, ça saute aux yeux. Et vous parlez effectivement de la petite fille et de l'adolescente que vous étiez avec, je vous cite, cette passion. C'est vraiment le mot que vous utilisez,
ouais.
Hein, cette passion qui, je cite donc, ronge mon épiderme comme un virus incurable présent dans toutes mes cellules. Je veux chanter. Comment est-ce que vous avez chopé le virus, Jeanne Masse?
Il était en moi, je m'en suis rendu compte un jour qu'il était en moi, parce que depuis toute petite je faisais des spectacles pour mes copines. Ça a commencé à l'école primaire, hein, à chanter des chansons que j'inventais, comme chante coquelicot. Bon, et puis je faisais des imitations d'autres artistes, je faisais Sylvie Vartan, on comme un garçon, j'ai des cheveux longs.
Et oui.
Ouais, donc j'avais besoin de montrer que j'avais une âme artistique, et c'était en moi, hein, ça ne se contrôle pas, vous savez.
Mais besoin de rencontrer le public ou besoin de s'exprimer à travers une chanson ou à travers du théâtre aussi, parce que vous avez un petit peu joué la comédie aussi.
Oui, hein. Oui, ça c'est en Italie. J'avais besoin certainement d'attirer le regard des gens, mais à travers l'artistique, parce que finalement moi dans ma vie je suis assez transparente, mais là artistiquement je voulais cette reconnaissance, je voulais faire rire, je voulais faire rêver, mais déjà très petite.
Et donc vous allez vous battre quand vous allez ensuite en Italie, vous y passez 6 ans, hein. Alors passion, C'est un mot qui fait référence aussi à la souffrance. La racine latine de mot passion, c'est précisément la souffrance. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir déçu quand même dans ces années italiennes. Alors vous tournez dans des pubs, vous êtes speakerine pour une nouvelle chaîne de télé, vendez des crêpes aussi. Alors ça, c'est pas forcément le plus terrible, mais c'est pas forcément le plus exaltant non plus quand on veut faire une carrière artistique. Il y a quelques petits rôles au cinéma. Et alors là, il y a un truc énorme qu'on apprend dans le livre, c'est qu'on vous a proposé le rôle qu'Isabelle Adjani a finalement tenu dans L'été meurtrier de Jean Becker. Avec le recul, vous vous dites que vous avez loupé quelque chose ?
Oh non, absolument pas. Oh ben non, qui se mettrait ? Moi, j'arrive même pas à la cheville d'Isabelle Adjani. Donc non. Mais c'était très drôle que justement dans cette période italienne, on vienne me chercher un metteur en scène français vienne me chercher en Italie pour me proposer un rôle dans un film français. C'était drôle, quoi, parce que j'étais quand même partie.
Mais vous auriez pu le faire.
J'aurais peut-être pu le faire, mais je pense que quand j'ai casté, je sais pas si j'aurais été capable de le faire. J'aurais pu peut-être, mais capable, je sais pas. C'était un rôle très prenant et très important. Et je n'avais pas beaucoup d'expérience non plus. Mais cela dit, je pense qu'être guidé par Jean Becker, ça doit devenir assez facile de jouer parce que c'est quand même un extraordinaire réalisateur. Mais Isabelle Adjani, on se bat pas. Isabelle Adjani, c'est l'une des plus grandes au monde.
Bon, vous avez tourné aussi avec Dino Risi. Alors ça, c'est pas un très très bon souvenir.
Non, ça, c'est pas du tout un bon souvenir. C'est d'ailleurs en tournant avec lui où je me suis dit, mais moi, j'aime pas le cinéma. On attend des heures et des heures et des heures. Et puis ensuite, on est traité vraiment comme sans respect. En fait, j'avais trouvé que le cinéma ne respectait pas suffisamment les femmes, les comédiennes. Et puis en fait,
c'était le physique qui comptait, quoi.
Ouais, voilà. Puis t'es un objet, quoi, finalement.
Faut coucher pour réussir. C'est ce qu'on vous a dit d'ailleurs un peu au début de la carrière.
On n'a pas arrêté de me dire faut coucher pour réussir. Ouais. Moi, j'aurais jamais couché avec déjà Dino Risi, mais en plus avec personne, parce que moi, je me suis toujours dit je réussirais avec mon talent ou je ne réussirais pas.
Alors, vous avez aussi tourné avec Jean-Jacques Hano, mais une pub pour une célèbre boisson gazeuse. On va pas citer la marque, mais bon, tout le monde.
Oui, puis je l'ai mise maintenant sur mon Twitter parce qu'on l'a retrouvée.
Voilà, très bien. Et puis, il y a aussi, donc, quand même, la carrière de chanteuse qui commence, hein. Donc, voilà. Il y a Franco Califano qui vous prend dans sa tournée. Alors, vous apparaissez sur scène habillé en clown, hein, c'est ça?
Ouais, voilà, en Pierrot. Un petit Pierrot clown, en fait. Bon, c'était plus un Pierrot comme ça, très triste, où je faisais l'ouverture. Après, je me changeais, je me démaquillais, je redevenais plus danseuse. Et puis après, je me remaquillais pour la fin. Et en fait, je passais beaucoup de temps à maquiller et me démaquiller pour trois interventions dans son spectacle. Mais quelle chance d'avoir pu travailler avec Franco Califano.
Oui, et vous rencontrez aussi à cette occasion Roberto Benigni, oui. Très très enthousiaste. C'est exactement l'image qu'on en a aujourd'hui, que vous nous racontez dans le livre. Alors, on vous emmène aussi assez vite dans une maison de disques, la maison de disques RCA, donc grande maison de disques évidemment en Italie. Vous sortez un premier single avec une reprise d'une chanson qui s'appelle On the Moon, réarrangée en version discothèque, puisque c'est évidemment la mode à ce moment-là. Vous êtes fier de ce premier single là, Jeanne Mas, parce que vous en parlez mais de façon très allusive. Vous parlez plus finalement de la pochette que de la chanson en elle-même.
Oui, parce que la chanson, en fait, elle avait rien d'original. C'est-à-dire qu'en fait, la première chanson qu'on m'avait proposée était une chanson qui s'intitulait Pensiero Stupendo, que j'ai reprise après dans mon nouvel album, et qui m'a été, au bout de quelques jours, retirée parce qu'on l'a donnée à Patti Bravo, qui en a fait un méga succès. J'avoue que moi, la chanson, je la trouvais pas aussi extraordinaire que ça, mais elle en a fait un énorme succès. Je me suis dit, tu vois, t'as encore rien compris, hein. Et donc, on m'a dit, comme j'aimais danser et tout ça, on m'a proposé On the Moon, mais là, c'était pas vraiment de la danse comme je voulais faire. Ma maison de disque gérait tout. Et donc, je n'avais pas beaucoup de liberté. Et moi, sans liberté, je peux pas évoluer.
Donc, beaucoup de projets commencés et puis très, très vite avortés, hein, finalement. Donc, beaucoup de déceptions. À ce moment, vous craquez, quoi.
C'est-à-dire qu'en fait, je me sentais ridicule dans les costumes qu'ils me faisaient porter, et j'avais croisé un jour, j'avais fait une télévision habillée comme ça avec mes porte-jartelles et tout ça. J'avais croisé un artiste. J'ai retrouvé son nom il y a quelque temps et ça y est, mes parties. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? T'es tellement mieux en naturel et tout. Et puis je savais qu'il avait raison. Et puis en même temps, j'avais peur de décevoir ma maison de disque. Et j'ai décidé de décevoir ma maison de disque, mais d'être authentique. Ouais. Alors ils m'ont rendu mon contrat.
Voilà.
Ça, c'était pas sympa. Hein.
Non. Et puis, un jour, alors vous rentrez brièvement en France, et puis chez un ami, vous croisez un type qui a déjà produit un disque, et vous lui dites, bon bah voilà, vous lui filez vos maquettes. Vous y croyez pas trop, et finalement, bah c'est ça qui va tout débloquer. Quoi.
Et voilà, en fait, il a réussi à avoir un rendez-vous chez EMI, et c'est Jean-Jacques Souplet qui à l'époque était directeur artistique de Pathé Marconi. C'était pas encore
l'ancien
EMI.
Nom, ouais.
Ouais. Et qui m'a dit welcome, et ça a été le plus beau jour de ma vie, c'est sûr.
Ouais, et donc ce monsieur Souplet, il est absolument scotché par ce texte-ci.
Des mots susurés tout bas, tremblant au son de ta voix, je cache encore le désir dans mes longs soupirs. Un parfum mêlé d'amour s'évade ton corps trop lourd.
Incroyable qu'une jeune femme puisse écrire un texte pareil, vous dit ce patron de Pathé Marconi. Alors cette chanson-là, elle n'est pas très très connue dans votre répertoire. Elle se trouve sur la face B d'un disque qui
de
va absolument
fois.
Tout changer, parce que la face
voilà.
B, la face A, effectivement, c'est ça. Jeanne Mas qui est donc avec nous aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Le disque sort en 1984. C'est 30 000 disques vendus par jour. Succès phénoménal. Vous dites quoi à ce moment-là ?
Ah ben moi je me rends pas trop compte. Je voyais tout le monde très heureux dans ma maison de disques, mais moi je ne réalisais pas ce que ça voulait dire. Et moi j'étais juste très contente parce que j'allais faire de la télé et que j'allais rencontrer Michel Drucker.
Oui, alors ça c'est un moment important parce que Michel Drucker à ce moment-là, c'est un peu un dieu vivant hein, pour tous les jeunes chanteurs qui entendent percer, passer à la télé quoi. C'est vraiment une sacrée aventure.
Oui,
quoi.
Et puis passer aux émissions de Michel Drucker qui étaient les émissions les plus importantes de variété, c'était un rêve, voilà. Et comme je dis dans le livre, en fait, je pense que si tout s'était arrêté à ce moment-là, juste après l'émission de Drucker, j'aurais même dit merci parce que c'était, voilà. C'était une chance inouïe.
Alors aujourd'hui, on se dit un passage télé, bon, c'est un passage télé, quoi. Il y a tellement d'autres moyens de se faire connaître. À l'époque, c'est quelque chose d'extrêmement important. Enfin. Et vous y accordez vous-même une importance vraiment phénoménale parce que vous vous produisez devant un public que vous n'avez jamais connu, effectivement, aussi nombreux à ce moment-là. C'est une vraie performance, en fait, que vous voulez proposer.
Oui, voilà. Je veux absolument convaincre que, voilà, que j'existe. Je ne voulais pas décevoir. Et c'était. Et en plus, comme j'avais l'expérience de la caméra, puisque j'avais été speakerine, je veux dire, je savais jouer avec les caméras, je savais quand elles s'allumaient, je savais que derrière il y avait des gens, et je me souviens d'avoir salué à la fin de ma chanson les gens qui étaient donc à travers la caméra, et on m'a dit aucune artiste n'a jamais fait ça de sa vie, et c'était juste ça, j'ai mis en œuvre tout ce que je savais faire pour convaincre, voilà, je suis là, j'existe, surtout regardez-moi, quoi.
Oui, et dans ce contexte-là, le visuel est aussi important que le son.
Exact.
Ou que la musique.
Parce que moi, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Quand j'ai fait jour J, pour moi, je veux dire, c'était mon look normal, quoi, quand j'allais chanter dans les. Et en fait, les gens ont remarqué ce look différent, et j'ai compris que même mon visuel était différent et apportait un plus. Donc après, évidemment, c'était, voilà,
vous
ça
en avez joué.
Oui, bien sûr, ça faisait partie de moi.
Mais alors, Jeanne Mas, est-ce que c'est un personnage?
Oh ben alors là, c'est pas, je saurais pas le dire comme ça. Si moi je suis un personnage, est-ce que c'est un personnage authentique ou c'est un personnage fabriqué? Je dirais c'est un personnage authentique, hein, parce que j'ai toujours été honnête dans ce que je faisais. Et puis des fois, bah quand j'ai voulu évoluer, faire pousser mes cheveux, changer les couleurs, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc si ça avait été fabriqué, à un moment, j'aurais gardé cette marque de fabrique.
Oui, mais la marque de fabrique, c'est précisément aussi de changer.
Ah ben maintenant, c'est devenu ma marque de fabrique. Je suis la seule artiste en France qui a le culot de changer la couleur de ses cheveux, la longueur de ses cheveux, de changer ses fringues tout le temps.
Vous dessinez toujours vos costumes d'ailleurs ?
Ouais, toujours. Et en fait, oui, c'est, je crois que maintenant, c'est le truc Jeanne Masse. Elle passe par toutes les couleurs. C'est cool quand même.
Alors, le premier album s'appelle tout simplement Jeanne Masse. Et on y retrouve donc toute première fois, mais pas que. Cette émission est une rediffusion. Et les radios en stéréo, les télés, les couvertures s'enchaînent à ce moment-là, donc c'est un vrai tourbillon pour vous. Jeanne Masse, vous dites même d'ailleurs dans le livre que l'année 85 a été l'une des plus belles et les plus intenses de votre vie. Alors, on l'a dit, hein, vous avez quand même pas mal galéré au début en Italie. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites pas « ça va trop vite, c'est trop » ?
Oh non, jamais. On peut pas se dire ça déjà parce qu'on s'en rend pas compte et qu'on n'a pas la même vision que ceux qui vous regardent. Nous, on vit les choses, on se lève le matin, on sait qu'on a plusieurs interviews, qu'on a des télévisions. Donc moi, je me concentrais plus sur les prestations que j'allais donner, sur les costumes que j'allais porter, sur le maquillage que j'allais faire. Donc c'était ça mon travail. Après, les autres recevaient ce message et voyaient Jeanne Masse partout sur les couves et tout ça, mais moi, je me suis pas rendu compte de tout.
Pas que ça parce que ça va quand même très loin. Deux victoires de la musique dès le premier album, quoi.
Dès les premières victoires de la
musique.
Ça va très
vite, oui.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, il y avait cette récompense, ce soutien de la part des médias. Je pense aussi cette affection qu'ils me portaient à l'époque. Et donc, j'ai été très, très gâtée. C'est vrai que ça a été une année formidable.
Mais les médias, mais aussi les professionnels de la musique, puisque
exact.
À cette époque-là, les victoires de la musique, c'est vraiment le petit milieu, quoi.
Exact.
Ça comptait pour vous réellement l'affection et la reconnaissance du milieu professionnel ?
Ah oui, quand même.
Autant que la reconnaissance du public ?
Oui, quand même. Bah oui, parce que j'ai besoin de leur soutien. Et si eux ne m'aiment pas, je ne passe nulle part. Et donc, le public ne peut pas me rencontrer. Or, les médias sont extrêmement importants puisqu'ils sont cette transition entre l'artiste et le public. Donc oui, j'ai toujours besoin de leur reconnaissance, de leur aval, de leur soutien.
Alors, donc, les médias, et puis, donc, ces deux victoires de la musique, Révélation Variété et Interprète Féminine de l'année. Donc, en 1985. Alors, il y a l'Olympia aussi, donc, première scène mythique, évidemment. Et, quand on a un immense succès comme ça, immense succès public et immense succès dans le milieu des médias et dans le monde du disque et de la chanson et de la musique, on se dit bon ben faut pas se louper pour l'album suivant. Et donc vous avez envie de travailler avec un certain Daniel Balavoine. C'est votre idée ?
Oui, c'était mon idée, mais c'était le premier album, Daniel, je l'ai tout de suite contacté, parce qu'en fait, ma maison de disques, Jean-Jacques Souplet, m'avait demandé si j'avais des envies particulières, et comme j'avais découvert cette chanson, Dieu que l'amour est triste, et je me suis dit, mais c'est qui ce gars qui chante des trucs aussi dépressifs, et moi j'ai adoré tout de suite, quoi.
Vous aimez bien les trucs dépressifs?
Mais j'adore ceux qui osent, et Daniel Balavoine était l'artiste qui osait tout. Tout, il a tout osé. Donc dans ses textes, il a osé parler de la violence, de tout quoi. Et du coup, c'est aussi voilà, Dieu que l'amour est triste, c'est on le sait tous, mais on le dit jamais. Et donc j'ai dit, écoutez, moi il y a cet artiste là qui chante Dieu que l'amour est triste. Ils m'ont dit ah oui, Daniel Balavoine. Bon, ok, voilà, j'aimerais bien travailler avec lui. Et la rencontre s'est faite.
Très simplement, d'après ce que vous racontez
parce que c'était quelqu'un de simple. Je pense qu'il aimait bien ce que je faisais et que finalement ça l'amusait aussi parce que en fait il commençait déjà à faire des productions. Il avait monté toute une équipe sur lesquelles il travaillait. avec lesquels il travaillait sur des arrangements, sur des productions. Il avait aussi produit des chansons pour Catherine Ferry. Et du coup, j'arrivais, c'était la petite jeune, voilà, number one. Et je pense que aussi, il était content aussi que je pense à lui.
Alors le courant passe très bien, hein, avec Balavoine.
Elles sont
très émouvantes, hein, les pages que vous lui consacrez. Et évidemment, comme beaucoup de gens de son entourage, sa mort brutale vous a absolument anéanti. Au final, Jeanne Masse, qu'est-ce qui vous a apporté Daniel Balavoine?
Avec le recul, je pourrais dire artistiquement tout, puisque j'avais besoin d'être rassurée et que il a su trouver le moyen de me rassurer moi artistiquement, puisque vous savez, une artiste n'est jamais totalement sûre de lui ou d'elle. Moi, j'avais besoin, même si depuis le début je voulais qu'on me regarde, j'étais pas sûre que je méritais d'être regardée. Or lui, il m'a non seulement montré et rassurée sur ce fait que j'étais qu'on devait me regarder, mais surtout qu'on devait m'écouter et on devait lire mes textes. Donc vous savez, je lui dois tout là-dessus.
Faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire.
Et je cours. Ouais, et votre version à vous de cette chanson de Balavoine, elle figure sur l'album L'Art des Femmes en 1990, donc bien après la disparition de Daniel Balavoine. Vous évoquez, Jeanne Masse, énormément d'artistes dans ce livre, au détour de quelques paragraphes, hein, c'est vraiment très 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 fugace.
Ouais, les belles rencontres.
Oui, comment est-ce que vous les avez choisis, justement, ces artistes-là? Vous avez choisi ceux qui ont le plus compté pour vous aujourd'hui, avec le recul, ou comme vous les avez vécus au moment où ces rencontres se sont produites?
Alors c'est peut-être pas dans l'ordre, parce que évidemment, comme j'ai pas la notion du temps, tout est assez confus pour moi, mais j'ai voulu marquer, voilà, l'impression à chaque fois de rencontrer ces artistes et l'émotion que j'ai eue à chaque fois de travailler avec eux, de chanter ou de partager une émission avec eux. Ça a toujours été des moments privilégiés, parce que il y a cette rencontre avec des êtres extrêmement sensibles qui se donnent à fond dans un métier où ils essaient d'apporter du bonheur, et ils sont en quête de ce bonheur pour eux-mêmes aussi. Et voilà, donc je voulais les citer parce que j'ai la chance de les avoir rencontrés surtout.
Voilà, bon, on va pas tous les citer, mais pour, bon, je sais pas, il y a Alain Chamfort, par exemple, notamment.
Oui, il y a Alain Chamfort, ouais, Gilbert Bécaud,
voilà, Julien Clerc,
Christophe, Michel Berger, bien sûr, je cite.
Et Serge Gainsbourg aussi. Alors, racontez-nous Serge Gainsbourg, parce qu'elle est très étonnante, hein, c'est comme souvent avec Serge Gainsbourg, cette rencontre qui se passe effectivement dans une émission de télévision avec Patrick Sabatier.
Avec Patrick Sabatier, et on était à ce dîner avant l'émission, et il est venu à cette table où on était tous, il y avait des médias, il y avait Monique Lemarcy, et il est arrivé à cette...
Monique Lemarcy, programmatrice de RTL, donc grande papesse de la chanson française.
Exact,
à ce moment-là.
Exact. Et donc, et c'est vrai qu'il était toujours dans la provocation, et je sais pas pourquoi, je pensais qu'il ne m'aimait pas, parce que il a tout de suite eu des mots pour moi dans le genre, tu sais ce qui va t'arriver, mais il était presque agressif, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a? Bon, j'étais encore toute jeune, puis face à un homme et à un artiste comme Serge Gainsbourg, on se sent vraiment, vraiment très petite, hein. Mais j'ai quand même une force de caractère, et donc, du coup, quand il m'a dit, tu sais ce qui va t'arriver, je l'ai regardé dans le genre, c'est quoi? Et puis, il me dit, ben, rien. Et là, je le regarde et je prends ça comme une chance. Et là, ça a été, je pense, là, il s'est pris ça, et du coup, je pense que c'est là qu'il m'a apprécié. Parce qu'il s'est levé, il m'a fait très peur, hein.
Détruisant des mondes de tradition, tu reproposes une nouvelle.
quelques-uns des titres de l'album Femme d'aujourd'hui de Jeanne Masse, donc sorti en 1986, avec le titre éponyme Femme d'aujourd'hui, avec L'enfant, avec Sauvez-moi, et évidemment En rouge et noir, on y vient, qui pour les gens de ma génération, Jeanne Masse, c'est bien plus qu'une réminiscence. Hein. Est-ce que c'est une chanson qui, pour vous, a une importance particulière?
Oui, mais ça, peut-être que vous pouvez y répondre. Pourquoi est-ce que cette chanson est importante pour vous?
C'est vous qui posez la question maintenant. Parce qu'elle m'a touché, peut-être, et parce que c'est effectivement une chanson générationnelle, quoi. Je pense que tout le monde a écouté, tout le monde a aimé, tout le monde a dansé, tout le monde a chanté En rouge et noir, quoi.
Mais est-ce que vous avez retrouvé votre vie aussi dans En rouge et noir?
Un peu, effectivement. En préparant cette émission, je l'ai évidemment écouté et réécouté. Et forcément, ça me rappelle une foule de souvenirs, forcément. Et ça en dit long sur la relation qu'une artiste peut avoir avec son public malgré les années qui passent. C'est ça finalement que vous recherchiez en voulant devenir interprète.
Je voulais que les gens se reconnaissent dans mes chansons. Je voulais parler d'eux. Je voulais chanter leur vie aussi. Et ce qu'il y a de formidable avec En rouge et noir, c'est que finalement, c'est une chanson qui parle de nous tous. Et les gens peuvent retrouver leur vie dans cette chanson. Donc, quand on la chante, tout le monde chante sa propre vie. Et ça, c'est formidable.
Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. C'est ainsi que ça commence. Hein.
Ouais.
Est-ce que vous avez manqué de conseils, Jeanne Masse?
Oui, par moments, oui, j'ai manqué de conseils, mais je suis tellement têtue que des fois, je pense que je n'aurais pas écouté, et c'est bien dommage, mais on a tous besoin d'un moment d'être conseillés, et je crois que les premiers qui devraient nous conseiller sont nos parents, qui des fois oublient de le faire.
Et quelles erreurs avez-vous commises, par manque de conseils?
Tout est dans le livre.
Sortir la chanson J'accuse, Jeanne Masse, est-ce que c'était une erreur?
C'était une erreur de garder ce titre, parce qu'en fait, ils ont fait l'amalgame avec une autre chanson.
Celle de Michel Sardou?
Celle de Michel Sardou. Moi, je ne connaissais pas cette chanson de Michel Sardou, qui avait un propos qui était différent du mien, puisque moi, en fait, je parlais du viol des filles, j'expliquais un peu cette douleur. Et les médias, ils n'ont même pas lu mon texte, ils ont fait cet amalgame, et ils ont dit, de toute façon, ils pensaient que je parlais aussi de la peine de mort, ce qui était totalement absurde. Si on m'avait un peu informé, même pas conseillé, informé, j'aurais changé le titre, c'est certain. Parce que finalement, ça a pénalisé ma chanson, quoi.
Mais il y a eu la chanson et puis il y a eu aussi la lettre qui a suivi peu de temps après, la lettre que vous avez écrite à François Mitterrand suite à un fait divers, hein, une petite fille qui a été retrouvée morte, ligotée dans une cave. Ça vous a beaucoup choqué, beaucoup de Français à cette époque. Qu'est-ce que vous vouliez dire à François Mitterrand en écrivant cette lettre au président de la République?
Quand on s'adresse au président de la République, c'est qu'on est vraiment désespéré. Hein. Donc, dans tout ce désespoir, puisque je venais d'avoir une petite fille qui avait 1 an et demi, 2 ans, j'ai vu le monde tellement dangereux pour nos enfants et tellement cruel. Et donc, en fait, je lui ai demandé plus de sévérité pour les violeurs d'enfants.
Alors, mais pas la peine de mort.
Bah, il n'y a pas marqué ça sur la lettre.
Non, donc, d'ailleurs, la lettre est reproduite, hein, d'ailleurs,
exact,
une extinction dans
voilà. Après, chacun interprète ce qu'il a envie d'interpréter. Hein, parce que
mais
même
dans la tête, qu'est-ce que vous aviez?
Moi, dans ma tête, j'avais des choses que bon, on va relancer le débat, mais j'avais pas vraiment, je pensais les travaux forcés à vie, parce que quand même, au moins ces gens-là, eh ben, faut les rendre utiles. Voilà, il y a certainement des pulsions comme ça qui peuvent être maîtrisées avec, je sais pas, des thérapies. Et voilà, parce que il faut reconnaître quand même que ces gens-là sont malades, c'est des malades, donc il faut, je sais pas s'il faut éliminer les malades ou il faut les soigner. Donc, mais ça, c'est une question que je me suis pas posée sur le moment. Je me la suis posée par la suite en écrivant ce livre où je me suis demandé est-ce que vraiment toi tu serais éventuellement voilà pour ce genre de peine parce qu'aux États-Unis beaucoup d'États là ont encore la peine de mort et on se demande vraiment si c'est une forme de justice parce que il n'envisage rien d'autre aucune thérapie aucune recherche dans le passé. Je veux dire, quelqu'un qui est malade, je veux dire, il y a, à la base, il y a eu quelque chose qui a cassé, il y a une cassure à la base. D'après ce que j'ai compris, hein, parce que j'ai regardé beaucoup, beaucoup de reportages et beaucoup de témoignages. Mais à l'époque, moi, j'étais juste une maman qui s'adressait au plus haut placé en lui disant, moi, j'ai peur pour ma fille, donc il faut vraiment maintenant nous rassurer, nous les parents, nous savoir que ces gens-là, eh ben, ils risquent d'être vraiment pénalisés s'ils continuent d'emmerder nos gosses. Hein.
Donc pas de réponse de François Mitterrand?
Ben non, mais non, parce que je crois qu'ils s'en foutent totalement.
Et en revanche, réponse de la presse, hein, et là vous en...
D'une certaine presse, pas tous, hein, parce que c'est vrai que... Beaucoup ont peut-être compris le cri de détresse qui était le mien. D'autres ont considéré que ce n'était pas ma place parce que j'étais une artiste de la chanson et qu'il fallait que j'arrête de crier haut et fort ce que je pensais ou ce que voilà qu'il fallait voilà que je reste à faire des chansons. Et puis il y a toute cette autre partie qui a récupéré pour dire ah mais vous avez vu Jeanne Masse. Et moi j'ai pas vu ça tout de suite parce que je suis assez naïve, je suis assez stupide par moment et que j'étais dans mon trip. Voilà, je défends la cause des enfants et tout ça et j'ai pas vu le danger.
Et il y a une cassure à ce moment-là qui se produit entre vous et les médias.
Ouais, totalement. Il y a beaucoup de médias qui ont commencé à me taper dessus. Je pense qu'ils attendaient justement cette faille, une faille à un moment pour pouvoir m'incendier. Et puis voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Certains joyeusement, d'autres. Mais ça, bien sûr que ça a été extrêmement douloureux pour moi parce que. Voilà, c'est parce que c'était bête, peut-être de l'avoir fait. Je sais pas si c'était aussi bête de l'avoir fait. Peut-être que j'aurais dû être plus claire dans ma lettre. Peut-être qu'il fallait pas le faire du tout, quoi.
Donc beaucoup d'amertume, hein, effectivement, on sent bien à propos de cet épisode, Jeanne Masse. Et puis il y a aussi une autre affaire. Là, cette fois, on vous accuse de racisme.
Je m'en prends toujours plein la tête.
Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Et là, vous mettez en cause clairement un animateur très connu.
Bah, hein, c'est lui qui a lancé ce truc. Hein.
C'est Nagui. Racontez-nous votre version des faits.
Mais moi, je sais pas, parce que c'est lui qui a lancé un jour. Moi, j'étais aux États-Unis, chez moi, dans l'Arizona, et mon fan club m'écrit, écoute, il y a Nagui qui a sorti, Jeanne Masse, elle est pas du tout, elle est plus acceptée dans mes émissions, je crois, un truc comme ça, parce que elle a écrit un jour sur un tableau, tout sauf l'arabe. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et je lui dis, écoute, non, Christophe, de toute façon, il est dans son délire, laisse tomber, il dit du mal de moi depuis des années, donc, je prends pas ça au sérieux. Et puis la nuit porte conseil, et le lendemain matin, je réalise en fait ce qu'il avait fait, et que c'était vraiment terrible, hein, parce que si au début ça ne m'a pas touchée, c'est que pour moi c'est totalement ridicule. Je veux dire, je suis pour la paix dans le monde, je ne vois pas la différence entre les gens, mais il avait vraiment pété un câble. Et donc,
mais c'est parti d'où alors cette histoire ?
Mais je n'en sais rien, il faudrait lui demander, sauf que lui a toujours coupé le dialogue avec moi, alors qu'on se connaissait bien, et que je l'ai croisé à deux reprises, et qu'à deux reprises j'ai essayé de lui parler, et qu'il a préféré fuir plutôt que de m'affronter. Ça, c'est de la lâcheté déjà. Et deux, parce que tu peux pas accuser les gens de choses aussi minables sans pour cela demander une explication.
Donc Nagui, cloué au pilori, hein, dans le livre, il y a d'autres animateurs télé, en particulier Marc-Olivier Fogiel, que vous n'appréciez pas particulièrement, et vous racontez pourquoi, donc ça s'est assez mal passé lors de passage télé. En revanche, il y a quelqu'un à qui vous rendez hommage, une femme de télévision, c'est Dorothée.
Ben oui, c'est
qu'est-ce qu'elle a fait formidable. Pour vous, Dorothée ?
Mais je voudrais aussi rectifier, je n'en veux pas à Marc-Olivier Fogéal d'avoir été très dur avec moi dans cette émission et de m'avoir fait mal. Avec le temps, vous savez, moi je suis pas une rancunière, donc le temps efface bien des douleurs.
L'idée, c'était pas de régler des comptes.
Non, l'idée était pas du tout de régler les comptes. L'idée était d'expliquer combien j'étais mal avant de partir, combien ce métier avait changé et combien j'étais devenue presque un taureau sur lequel on s'acharnait comme ça, sans bonne raison, mais il faisait peut-être son métier. Enfin bon, ça a été très très douloureux. Après, c'est vrai que les belles rencontres
alors,
comme
Dorothée, voilà.
Qui est une femme formidable, qui met en valeur toujours tout le monde, mais elle met en valeur, elle ne se met jamais en valeur, elle met toujours en valeur les autres. C'est une femme formidable.
Et Dorothée, et la bande des amis à Dorothée, AB Productions, c'est finalement eux qui vous ont permis de rebondir, quoi, après ce
après
ces
la
crises
cassure
de l'âme
avec,
et la cassure qu'on évoquait à l'instant.
Oui, après la cassure avec Yema, et qui était devenue Yema, ma maison de disques, c'est vrai que par la suite, j'ai rencontré des gens comme ça qui continuaient de croire en moi, qui me donnaient les moyens de continuer de faire des chansons, et j'ai fait de très très belles rencontres par la suite.
Alors on est passé de Au nom des rois à Côté H, Côté Clean, en passant par Dors bien Margot et Quitte à lui mentir. Ça, c'est extraordinaire, Jeanne Masse, parce que là, votre style a complètement changé.
Oui, c'est vrai que j'ai voulu à un moment amener, quand je suis partie de AB, j'ai voulu vraiment amener quelque chose de totalement différent. Et j'ai fait cet album qui s'intitulait Jeanne Masse et les égoïstes, et qui était totalement rock, mais très très rock. Et j'avais changé ma voix, les textes étaient très sexuels. C'est un très bel album. Et je me suis amusée comme je ne m'étais jamais amusée jusque-là. Vraiment, c'était très bien.
Alors, c'est intéressant cet album, Jeanne Masse. C'est les égoïstes, parce que à croire ce que vous écrivez, ça révèle quand même pas mal de choses sur le fonctionnement du marché de la musique en France, parce que on envoie l'album à l'aveugle, hein, donc sans dire qui chante, voilà. Tout le monde adore, c'est ce que vous racontez.
Ouais,
hein.
Ouais.
Et quand on apprend que c'est vous, ben, bizarrement, les radios ne veulent plus les programmer.
Voilà, parce que j'étais connotée, on dit, années 80. Et donc, du coup, lorsqu'ils ont reçu le. On appelle ça blind CD. Et donc, en fait, il y avait le visuel, mais il n'y avait pas mon nom. Et ma tête étant baissée comme ça, avec mes cheveux rouges, ils n'avaient pas reconnu. Ils ne m'avaient pas reconnu. Et du coup. Ils voulaient savoir, mais c'est qui chante, c'est génial. Ils avaient reçu Côté H, Côté Clean. Et puis, en fait, quand ils ont su, que c'était Jeanne Masse, ils ont fait, ah ouais, non, voilà, c'est pas, la radio, en fait, ça, c'est pas le format de la radio. Voilà, c'est ça. Et du coup, ils ont sacrifié ce bel album qui leur plaisait. En fait, c'était tout à fait, ça n'était ni 80 ni quoi que ce soit. C'était juste me renouveler, apporter quelque chose de neuf.
Mais c'est très français, ça, vous qui avez un petit peu bourlingué, en particulier en Italie ou aux États-Unis, de pas pouvoir justement décoller l'étiquette que vous vous êtes vous-même collé ou qu'on vous a collé, peu importe.
Non, je sais pas, parce que je vois que le même problème est aux États-Unis. Enfin, à part Bowie, David Bowie, qui a toujours réussi à imposer des nouveautés et à se renouveler, je vois pas d'autres artistes avoir eu cette même chance.
Alors, bientôt sortira, Jeanne Masse, votre nouvel album, intitulé Goodbye Je reviendrai, c'est dans une petite dizaine de jours. À quoi est-ce qu'il va ressembler cet album ?
Alors, ce sont des reprises qui sont inspirées du livre, parce qu'en fait, aussi bien la compilation, le coffret 3 CD, que le nouvel album qui sortira à la fin du mois, sont inspirés du livre. Je parle de ces chansons qui m'ont marqué, mais aussi des chansons qu'on m'a retirées, comme celle de Patti Bravo. Je parle de Balavoine, je parle de Michel Berger. Et du coup, j'ai voulu les interpréter dans ce nouvel album.
Et parmi les reprises, il y a justement Que l'amour est bizarre, une chanson de Michel Berger, ouais, sortie en 1975.
Dieu, que l'amour est bizarre. Je te crois sans te voir. Hier, je te parle sans savoir que je t'aime déjà. Dieu, que l'amour est bizarre. Toi, tu vivais dans le noir. Je t'écoutais sans voix, que tu m'aimais déjà.
Que l'amour est bizarre, donc reprise d'une chanson de Michel Berger à découvrir très bientôt dans le nouvel album de Jeanne Mas, notre invité aujourd'hui. Goodbye, Jeanne Mas, merci
Goodbye,
beaucoup.
Goodbye, mais je reviendrai.
Vous reviendrez. Eh ben, rendez-vous est pris. Merci beaucoup.
Merci.
Et en attendant, donc, la sortie de ce nouvel album, il y a donc ses réminiscences chez Flammarion, le livre et le triple CD Best Of chez Warner et puis l'Olympia, hein, les 8 et 9 avril prochains.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Tonari no Totoro. Alors, c'est plus Jeanne Mas, c'est un extrait du nouvel album de Cécile Corbel, Enfant du Vent. Bonjour Alain Pilot.
Bonjour Jean-François, bonjour Jeanne Mas.
Huitième disque déjà pour cette jeune chanteuse, Cécile Corbel, compositrice et musicienne.
Harpiste émérite, dont la musique ancrée dans la tradition du Finistère d'où elle est originaire, mélange sonorité irlandaise et même japonaise, renforcée ici par la présence d'une chanteuse du pays du soleil levant.
Misaki Uwasa, donc c'est une chanteuse japonaise ex-idol de ces groupes de pop très très sucré, on va dire, qui ont beaucoup de succès au Japon, mais qui s'est reconverti dans le NK, qui est un genre, on pourrait dire que c'est de la musique traditionnelle japonaise, mais en fait c'est vraiment la musique de l'entre-deux-guerres au Japon, qui est très très nostalgique pour les Japonais d'aujourd'hui et qui est assez populaire. Et elle a une voix très particulière et on s'est rencontrés et le duo, je trouve, fonctionne bien parce que nos deux voix sont assez atypiques chacune dans leur genre et on chante... Elle en japonais, je lui réponds en français sur une chanson d'un générique de studio Ghibli qui s'appelle Sayonara no Natsu, les adieux à l'été. Je suis très contente de l'avoir rencontrée. Elle est un peu mon pendant japonais d'une certaine façon parce qu'elle va puiser dans des choses un peu traditionnelles pour les amener vers les gens d'aujourd'hui.
Sur l'album Enfant du Vent et non l'enfant comme le chante Jeanne, Cécile Corbel en duo avec la japonaise Misaki Wasaya, Sayonara no Natsu. Cécile Corbel, deux fois disque d'or et consacrée bande originale de l'année 2010 pour le film Arrietty, le petit monde des chapardeurs du studio japonais Ghibli.
Du continent asiatique, on passe à l'un au continent américain avec la canadienne Natasha Saint-Pierre, également au générique de cet Enfant du Vent pour la reprise d'une fameuse comptine.
Sur le disque, je voulais qu'il y ait des standards de ma culture chanson d'enfant. Donc il y en a deux, il y a cette chanson V'là le bon vent et puis une autre qui s'appelle Vent frais. Deux fois le vent, donc ça c'est sans doute mon karma et d'être née à la pointe du Finistère. V'là le bon vent, vraiment c'est une chanson que j'ai chantée énormément et que j'adorais enfant. Donc elle se trouve très logiquement sur le disque et le duo avec Natacha, il se trouve qu'elle aussi le chantait. Donc je trouvais ça assez joli que deux enfants de chaque côté de l'Atlantique aient fredonné cette mélodie et que les chansons voyagent peut-être encore plus facilement que les gens.
Natacha Saint-Pierre, invitée par Cécile Corbel sur Y'a le bon vent. Alors vous le disiez Alain, Cécile Corbel est harpiste, c'est à l'âge de 15 ans qu'elle a découvert la harpe celtique et elle va faire ensuite de longues années d'études en archéologie.
Alors pourquoi la musique, Cécile Corbel ?
Bonne question, peut-être un jour j'arrêterai, je sais pas. La musique, moi j'y suis arrivée par hasard, jamais j'aurais pensé être sur scène quand j'ai commencé à jouer de la harpe. C'est le jeu des rencontres et des hasards. Moi j'ai grandi donc au bout du monde à la pointe Finistère, puis je suis montée à Paris pour mes études et j'ai rencontré des musiciens et l'envie de jouer avec eux a été le déclencheur de tout. Et puis après, le virus de la scène, on l'attrape assez vite, que ce soit en jouant dans des petits pubs cachés du 14e arrondissement chez les Bretons ou même dans la rue, parce que j'ai commencé par jouer dans la rue. Cette envie-là, elle donne une adrénaline qu'on n'a pas envie de lâcher. Donc de fil en aiguille et de rencontre en rencontre, j'ai enregistré un disque et puis après ça a fait un chemin qui est celui que j'ai aujourd'hui, mais il n'y a aucune préméditation. Et le jour où cette envie va peut-être un jour disparaître, je trouverai d'autres idées.
Cécile Corbel qui nous explique maintenant pour quelles raisons elle n'est pas peu fière d'être à l'affiche du prochain Festival Interceltique de Lorient le 7 août.
Le chauvinisme breton, peut-être. Non, le Festival de Lorient, et ça fait peut-être la quatrième fois qu'ils me programment. Ils sont assez fidèles à presque chaque album, parce que ça reste un des rendez-vous phares de la culture celtique, même en dehors de la France. Hein, le Festival Interceltique, c'est une belle vitrine et c'est un moment que j'aime bien, parce qu'on est programmé au Palais des Congrès, qui est une belle salle, en après-midi. Donc c'est très ouvert aussi aux familles, et ça tombe bien, parce que mon public est intergénérationnel. Et voilà, c'est à chaque fois que j'ai pu y jouer, ça a été un super moment.
Grain de sable, Cécile Corbel qui sera le 7 août donc au Festival Interceltique de Lorient en Bretagne. Bien sûr, l'album est intitulé Enfant du Vent, c'est chez Polydor Universal. Merci Alain. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dans un instant, l'info sur RFI et vous m'en direz des nouvelles.